journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, les premières comparutions judiciaires dans les affaires d'agression de Roms. Des Roms de Seine-Saint-Denis visés ces dernières semaines par des rumeurs d'enlèvement d'enfants. Reportage à suivre au palais de justice de Bobigny. Ça sert à quoi de vendre du bio si on ne peut pas l'acheter? La question de bon sens de Michel-Édouard Leclerc a le don d'agacer les agriculteurs. On les entendra dans ce journal. L'actualité aujourd'hui également, un troisième vote sur le texte de Theresa May sur le Brexit. Les salariés d'Arjo Wiggins à la merci d'une liquidation judiciaire, décision à venir du tribunal de commerce de Nanterre. Et puis on parlera également de la banque de la démocratie. L'idée fait son retour chez les députés et d'une saga légendaire de la bande dessinée, le petit Nicolas qui souffle cette année ses 60 bougies.
L'écrivain américain, prolifique auteur de romans policiers, Michael Connelly est l'invité, je vous le rappelle, d'Ali Badou dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Ils étaient venus, Sébastien, en Seine-Saint-Denis pour casser du rhum.
C'est comme ça qu'un procureur de Bobigny a résumé hier l'expédition punitive de lundi soir. Une cinquantaine de personnes qui s'en sont prises à des camps de rhum suite aux rumeurs totalement infondées d'enlèvement d'enfants qui pullulent depuis des semaines sur les réseaux sociaux. 8 d'entre eux sont passés hier devant la justice pour un premier interrogatoire dans le box de jeunes pères de famille armés de bâtons et de couteaux qui aujourd'hui plaide une crise de bêtises aiguës. Le reportage à Bobigny de Mathilde Lemaire.
Ils ont entre 19 et 27 ans et tous un cadre familial stable. Il y a un manutentionnaire SNCF, des étudiants, un intérimaire, un gérant de magasin de sport, entre autres. Leurs casiers judiciaires sont vierges ou très minces. Je suis quelqu'un d'ordinaire, j'ai cru bêtement la rumeur de Snapchat et Facebook, promet l'un d'eux. C'est le policier en garde à vue qui m'a dit que c'était une fake news et qu'il n'y avait pas eu d'enlèvement par des Roms, explique un autre dans le box. Sarah est la compagne d'un troisième, elle est venue au tribunal avec leur bébé de 3 mois.
Moi aussi, j'y ai un peu cru. Hein. Étant donné que je suis maman, c'était plus un peu de la peur qu'autre chose. En voyant certaines familles qui disent que ses propres enfants ont failli être enlevés, avec tout ce qui se passe, vous voyez, les réseaux sociaux, ça entraîne beaucoup de choses.
Maintenant, vous y croyez encore un peu?
Enfin, je suis mitigée. Je sais pas d'où vient l'info. Je pense que c'est faux vu qu'il n'y a pas eu de plainte de parents. Donc à partir du moment où il n'y a aucune plainte, c'est qu'il n'y a pas eu d'enlèvement. Mais de toute façon, quoi qu'il se passe, on ne peut pas viser toute une communauté. Donc ils auraient dû réfléchir et pas aller jusqu'au bout.
Oui, ces jeunes se sont montés le bourrichon, mais c'était sur fond de racisme, dénonce le procureur, avant que l'audience ne soit renvoyée et les prévenus placés sous contrôle judiciaire. Il a rappelé que d'autres agressions ont eu lieu ces derniers jours à cause de cette rumeur, que de nombreuses familles, roms avec enfants, vivent apeurées. Certaines ont déserté leur campement par crainte de nouvelles expéditions punitives.
Mathilde Lemaire, les procès sur le fond de ces 8 agresseurs auront lieu le 31 mai et le 7 juin prochain sur le terrain. Depuis mardi, aucune violence en lien avec ces rumeurs n'a été recensée en Seine-Saint-Denis. Mais la police dit rester vigilante et continue sa sécurisation des camps de Roms.
7h34, faut-il baisser la TVA sur les produits bio?
La question traverse aujourd'hui le gouvernement. François de Rugy n'y est pas opposé. La semaine dernière, le ministre de la Transition écologique s'est prononcé pour une fiscalité modulable. À l'origine de cette interrogation, il y a encore le trublion des hypermarchés Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, qui lui veut une taxe à 0% sur les produits issus de l'agriculture biologique. Pas question, lui ont répondu hier les agriculteurs de la FNSEA, soutenus à 100% par leur ministre, Manuel Ruffez.
Dans un premier temps, on a pu découvrir les publicités Leclerc avec ce slogan « Ça sert à quoi de vendre du bio si vous ne pouvez pas l'acheter ?» C'est dans un second temps que le distributeur s'est expliqué. Avec une TVA à zéro, il veut rendre accessible aux plus modestes des produits bio forcément plus chers, explique-t-il. Réponse de Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA.
Qui peut croire Michel-Édouard Leclerc en disant « TVA à 0% et ça sera mieux pour augmenter la consommation des produits bio. » On sait très bien qu'il va se mettre l'argent dans sa poche. Et puis, objectivement, il y a des aides à la conversion en agriculture biologique. Il y a des aides au maintien. Maintenant, il faut payer les consommateurs pour qu'ils mangent bio. Manger à un prix, on ne peut pas se nourrir toujours mieux pour toujours moins cher.
Et comme en écho à ses propos, le ministre de l'Agriculture lui-même, sur la tribune et devant les agriculteurs de la FNSEA, n'a pas hésité à revenir à la charge. Mauvaise idée, dit-il aussi.
C'est une hérésie sociale, une hérésie fiscale. Mettre 0% de TVA sur les produits bio, ça ne va rien changer pour le producteur, ça ne va rien changer pour le consommateur. La seule chose pour laquelle ça va changer, c'est pour le distributeur. Après, il peut y avoir un panel complet de fiscalité, mais enfin, on ne va pas faire le concours l'épine de la fiscalité. Non, je suis très opposé.
Et comme Christiane Lambert a elle aussi le sens du slogan, elle a répété à plusieurs reprises sa formule à elle, plus sévère, plus c'est cher.
Manuel Ruffez du service économique de France Inter. Et puisqu'on parle alimentation, les compléments alimentaires sont dans le viseur de l'agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, qui met en garde les personnes atteintes d'arthrose et qui sont par ailleurs diabétiques ou asthmatiques. Dans leur cas, certains compléments alimentaires pour traiter les douleurs articulaires auraient des effets indésirables. 74 cas recensés, 74 cas sur 1 million de boîtes vendues, répondent les fabricants. Les gilets jaune, acte 20, J-1, en plus de Paris sur les Champs-Élysées, trois villes ont interdit les manifestations dans certains secteurs, Avignon, Rouen et Toulouse. Avignon qui doit être demain l'épicentre d'une manifestation à caractère national, des milliers de personnes sont attendues. Ce n'est pas une revendication des gilets jaunes ni du grand débat, mais c'est une idée qui revient progressivement dans l'actualité, la banque de la démocratie. Un concept défendu lors de la campagne présidentielle par François Bayrou, enterré l'été dernier par la ministre de la Justice, mais une idée qui refait surface en ce moment au Parlement, défendue par de nombreux partis qui peinent de plus en plus à trouver de l'argent. Élodie Forêt.
C'est un refrain que l'on entend dans de nombreux états-majors. Des banques frileuses qui ne veulent plus prêter aux partis d'opposition. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, en fait les frais.
Il faut voir le chemin de croix. Je pourrais vous publier les refus systématiques, même de personnes de notre liste qui ont un petit patrimoine, qui ont demandé d'emprunter 50 000 euros gagés sur l'hypothèque. Ça a été refusé.
Nicolas Dupont-Aignan qui soutient l'idée d'une banque de la démocratie. Un combat porté à l'Assemblée par le Modem. Le député Patrick Mignola a repris les armes, convaincu de l'importance de cette banque à l'heure où les Français réclament davantage de représentativité.
Aujourd'hui, le mouvement démocrate fait partie de la majorité. Donc nous, quand on a besoin d'être financé, ça marche. Mais il y a quelques années, lorsqu'on traversait le désert avec François Bayrou, on avait du mal à être financé. Et je pense que c'est aux électeurs de décider qui peut gagner une élection et pas aux banques.
Au Sénat, les centristes travaillent aussi sur des solutions, soit une proposition de loi, soit instaurer cette banque dans le cadre de la révision constitutionnelle. Patrick Mignola est optimiste.
Nous, on est habitués à traverser le désert avec nos idées sur le dos, mais à les amener au bout. Si je dois prendre un pari, je suis sûr qu'avant la fin de cette législature, une banque de la démocratie existera.
Une banque qui, selon le Modem, pourrait s'adosser à la Caisse des dépôts. Une solution simple et viable pour financer les partis.
Élodie Forêt du service politique d'Inter. Il est 7h38 à l'étranger. C'est tout un pays qui, l'an dernier, est passé sous le seuil de pauvreté.
94% de la population du Venezuela vivait l'an dernier dans la pauvreté. 60% dans une extrême pauvreté, constat accablant d'un rapport de l'ONU. Le quart des Vénézuéliens, 7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, avec à la clé la réapparition de la tuberculose, de la diphtérie ou de la malaria. Face à ce drame humanitaire, toujours l'impasse politique. Hier, le président autoproclamé Juan Guaido a été révoqué de son poste de président du Parlement et déclaré inéligible pour 15 ans. C'est la dernière victime de la concurrence effrénée des compagnies low cost. La compagnie islandaise WOW a brutalement annoncé hier la fin de l'aventure, faillite après 8 années d'activité, un millier d'employés au chômage et des voyageurs qui ont appris la nouvelle presque en plein vol, provoquant une belle pagaille à l'aéroport de Keflavik. Reportage de Jérémy Richard.
Près de 4000 voyageurs au total se sont retrouvés pris de court en Europe et en Amérique du Nord par la fin des activités de WOW Air. Kimberly Worthy, une écrivaine de 34 ans, devait rentrer aux États-Unis après 5 jours de vacances en Islande.
J'ai demandé à un jeune homme qui travaillait à l'aéroport où est-ce que je pouvais être enregistré pour mon vol. Et il m'a répondu que la compagnie n'opérait plus ici désormais. D'abord, je me suis dit que j'étais peut-être au mauvais aéroport. Puis je suis allée sur Google et c'est là que j'ai découvert qu'elle avait fait faillite. Mais je n'ai même pas été informée par email. C'était terrible.
Enzo Prunes, avocat argentin de 27 ans, venait en Islande pour la première fois avec ses parents retraités. Il a quant à lui bien reçu un courriel lui indiquant l'annulation de son vol, mais qu'importe.
Je suis très en colère et je ne sais pas comment le gérer car nous avons dû dépenser à nouveau beaucoup d'argent. Nos cartes bancaires ont chauffé car on a dû louer une voiture, acheter des billets pour un nouveau vol et tout ce qui va avec.
La faillite de WOW Air en raison de difficultés financières couvées depuis de nombreux mois, entre des discussions de rachat avortées à deux reprises avec sa compatriote Icelandair et le volte-face d'un fonds d'investissement financement après avoir pourtant signé un accord de principe. La faillite du transporteur islandais pourrait maintenant avoir des conséquences importantes sur l'économie du pays. À l'aéroport international de Keflavik, Jérémy Richard pour France Inter.
Il est 7h40 et on termine, Sébastien, avec un mythe de la bande dessinée, le petit Nicolas qui fête ses 60 ans.
Il a accompagné et accompagne toujours des milliers d'enfants pour apprendre à lire ou apprendre à rire. Le petit Nicolas, créé par Sampé, scénarisé par Goscinny, un blockbuster de la BD, 300 000 ventes annuelles, deux films et une série. En ce jour anniversaire, rencontre avec le créateur du petit Nicolas, Sampé, signé Jacqueline Pétrose.
Le temps a filé, mais dans son atelier à Paris, Sampé se souvient du début de l'aventure, quand l'éditeur du journal belge Le Moustique lui a demandé de faire une BD. Mais Sampé n'aime pas entrer dans les cases.
Moi, je lui ai dit que j'aimais pas ça. Et René Goscinny, qui travaillait à ce journal, m'a dit, mais ne t'inquiète pas, tu as un personnage, c'est ce que tu fais avec le petit Nicolas. Alors je dis, bien écoute, tu le fais, tu écris, et moi je ferai les dessins, et c'est comme ça que ça a commencé.
60 ans plus tard, la reconnaissance de ceux qui aiment ce personnage étonne et touche Sampé.
Oui, mais ça me fait plaisir en même temps. C'est impressionnant, vous savez. Le métier que je fais fait qu'on est, en principe, tout seul. Alors quand vous rencontrez des gens, c'est très agréable.
Le secret du petit Nicolas, c'est l'enfance. Aymar Duchâtenay, éditeur du petit Nicolas fait la fête.
Dans toutes les classes, il y a un premier de la classe, Agnan, un dernier de la classe, Clotaire, un gosse de riche, Geoffroy. Et cette universalité de la salle de classe et de l'ambiance des rapports des enfants entre eux, ça n'a pas changé. Les relations entre les enfants sont toujours les mêmes.
Pour son anniversaire, un superbe album collector cartonné rouge et or, avec 10 belles histoires, fait entrer le petit Nicolas dans l'ère des classiques.
Voilà, le dernier né, le petit Nicolas fait la fête, c'est chez Imav Édition. Interview en longueur de Sampé à lire sur franceinter.fr.
Merci Sébastien, c'était le journal de Sébastien Legénie.